les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Elsa Savouré, avocate, dessine les contours des droits de l'homme au sein de l'entreprise. Premier épisode. Entreprise et droits humains, de quoi parle-t-on ?
Alors nous allons nous intéresser dans cette série de podcasts aux grandes lignes du domaine entreprise et droits de l'homme, ou droits humains, aussi appelé en anglais business and human rights. Nous accueillerons à cette occasion plusieurs invités, reconnus pour leur expertise et leur engagement, et qui nous donneront aussi un aperçu des différents métiers que l'on peut exercer dans ce domaine. Alors pour commencer, de quoi parle-t-on quand on parle de cette combinaison entre entreprise et droits humains ? Schématiquement, il s'agit de s'assurer que les entreprises respectent les droits de l'homme dans le cadre de leurs activités et de leur chaîne de valeur. Pourquoi s'intéresser à un tel sujet ? Aujourd'hui, il faut voir que les chaînes de valeur des entreprises sont longues, complexes, globalisées. Elles font intervenir des milliers de fournisseurs, de sous-traitants, d'intermédiaires à travers le monde. Et à chaque maillon de ces chaînes, peuvent survenir des impacts négatifs sur les droits humains. Prenons l'exemple d'une société multinationale fabriquant nos téléphones portables. Sa chaîne de valeur, de manière très simplifiée, commence à partir des sociétés minières qui extraient les minerais nécessaires à la fabrication de plusieurs composants de ces téléphones, comme par exemple le cobalt, qui est extrait de plusieurs pays africains et qui sert à la fabrication des batteries. Les minerais, une fois extraits, sont ensuite transportés, traités, transformés par plusieurs sociétés avant d'être vendus à des sociétés qui vont fabriquer les composants électroniques et également les batteries. Ces composants sont ensuite assemblés par d'autres sociétés dans des usines, en Asie principalement, et ces sociétés peuvent elles-mêmes parfois faire appel à des sous-traitants locaux. D'autres sociétés, une fois ces téléphones assemblés, interviennent pour transporter les téléphones, puis ensuite pour les commercialiser. Tout au long de cette chaîne de valeur, et dans tous les pays, peuvent survenir des impacts négatifs sur les droits humains. Ces impacts sont nombreux et ils sont variés. Si on revient à notre chaîne de valeur des téléphones portables, on peut citer les situations de pire forme de travail des enfants dans les mines, les conditions de travail dangereuses, la pollution de l'environnement générée par les mines et qui peut affecter les droits des communautés, notamment leur droit à la santé. On peut citer aussi les situations d'esclavage moderne dans les usines d'assemblage, le harcèlement moral et sexuel au travail, l'interdiction de fonder un syndicat, d'adhérer à un syndicat de son choix. On peut aussi citer les atteintes à la vie privée des usagers de téléphones portables en cas de collecte de leurs données personnelles. Alors ces impacts, et bien d'autres, ils peuvent aussi être transposés à d'autres chaînes de valeur. Les chaînes de valeur textiles, par exemple, de nos vêtements, les chaînes de valeur des produits agroalimentaires, des produits financiers, des voitures, des ordinateurs. Et puisqu'on parle aussi beaucoup en ce moment du changement climatique, qui n'est pas sans lien avec les activités économiques, c'est aussi important de souligner que le changement climatique peut mettre en danger les droits à la vie, à la nourriture, au logement et aussi l'état de droit. Donc on voit bien qu'on a un certain contexte. Et dans ce contexte, les entreprises sont de plus en plus scrutées par les ONG, par les consommateurs, par les investisseurs. Elles sont scrutées quant à leur performance en matière de droits humains et finalement, elles sont aussi de plus en plus scrutées par les juridictions. On voit les attentes qui finalement grandissent. Les attentes de la contribution des entreprises à la société et les moyens pour ce faire. Et on comprend dès lors les enjeux que présentent les droits humains pour les entreprises. Si on revient en arrière, pourtant, il faut bien comprendre que ces enjeux, ils étaient loin d'être évidents. Ils étaient loin d'être évidents au début des années 2000. Traditionnellement, c'est aux États qu'il revenait de protéger les droits humains. Et le sujet n'était pas considéré comme relevant du ressort des entreprises. Et puis il y a eu un changement d'état d'esprit, initié sous l'impulsion de Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies. Nous allons écouter ce qu'il nous dit à l'aube du XXIe siècle.
Specifically, I call on you, individually through your firms and collectively through your business associations, to embrace, support and enact a set of core values in the areas of human rights, labor standards and environmental practices. We have to choose between a global market driven by calculations of short-term profit and one which has a human face, between a selfish free-for-all in which we ignore the fate of the losers and a future in which the strong and the successful accept their responsibility, showing global vision and leadership. Ladies and gentlemen, I'm sure you will make the right choice. Thank you very much.
Ce que nous dit Kofi Annan à Davos, il y a 20 ans, c'est que les entreprises disposent d'un pouvoir économique considérable. Et que ce pouvoir, il est source de grandes opportunités, mais il est aussi source de grandes responsabilités. Et c'est pour cette raison qu'il invitait les entreprises à faire leur un certain nombre de valeurs relatives aux droits humains, aux normes du travail et à l'environnement. C'est cette logique qui va nous amener dans un premier temps au Pacte mondial des Nations Unies, qu'on appelle aussi Global Compact, puis ensuite dans un second temps aux principes directeurs des Nations Unies pour les entreprises et les droits de l'homme. Ces principes directeurs résultent d'un travail de consultation et de rédaction de plusieurs années qui a été mené par le professeur John Ruggie, qui agissait alors en qualité de représentant spécial du secrétaire général Kofi Annan sur la question, justement, des entreprises et des droits de l'homme. Regardons maintenant de plus près les principes directeurs des Nations Unies. Ces principes directeurs ont été adoptés à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en 2011, et ils constituent la base du domaine entreprises et droits de l'homme. Ils se composent de trois piliers. Premier pilier, l'obligation des États de protéger les droits de l'homme. Second pilier, la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme. Troisième pilier, la nécessité d'aménager des voies de recours appropriées et efficaces en cas d'incidence négative sur les droits de l'homme et la nécessité de remédier à ces incidences. Donc premier pilier, l'État doit protéger les droits de l'homme. Second pilier, les entreprises doivent respecter les droits de l'homme. Troisième pilier, l'État et les entreprises doivent réparer les incidences négatives sur les droits de l'homme. Si on regarde maintenant plus précisément le second pilier, on voit qu'il consacre la responsabilité des entreprises, de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur structure capitalistique, quel que soit le pays dans lequel elles agissent, de respecter les droits de l'homme dans le cadre de leurs activités et de leur chaîne de valeur. Les entreprises doivent respecter les droits humains, mais les États n'en ont pas moins pour obligation, conformément au droit international des droits de l'homme, de s'assurer que les droits de l'homme sont protégés dans leur juridiction et que des voies de recours existent. C'est d'ailleurs ce que nous rappellent le premier pilier et le troisième pilier des principes directeurs. Alors, on parle de ces principes directeurs des Nations Unies pour les entreprises et les droits de l'homme. Mais de quels droits de l'homme parle-t-on? Quels sont ces droits de l'homme que les entreprises doivent respecter? Ils sont nombreux. Et ils sont contenus à minima dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Parmi ces droits, et la liste est longue, mais on peut citer, par exemple, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne, la liberté de réunion, d'association, le droit de circuler librement, le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l'esclavage, à la servitude. On peut ajouter à ces textes des principes qui sont issus des 8 conventions maîtresses de l'Organisation internationale du travail, notamment sur les pires formes de travail des enfants, sur le travail forcé, sur la liberté syndicale et d'organisation, sur la lutte contre la discrimination, etc. Et selon les circonstances, les entreprises doivent aussi respecter d'autres normes, notamment celles qui sont contenues dans différents instruments des Nations Unies, sur les peuples autochtones, sur les femmes, sur les personnes handicapées, selon leurs activités, ou encore elles doivent respecter le droit humanitaire international si ces entreprises venaient à intervenir dans des zones de conflit, par exemple. Les principes directeurs décrivent un certain nombre de procédures que les entreprises doivent mettre en place et que nous verrons dans un épisode ultérieur. Ils prévoient aussi un certain nombre de procédures en cas de contradiction entre le droit local et les droits humains internationalement reconnus que nous venons de mentionner. J'aimerais terminer en disant deux mots de l'influence des principes directeurs. Ils sont souvent considérés comme des normes de droit mou ou de droit souple, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que leur influence, elle est considérable. Ils sont de plus en plus intégrés par les entreprises dans la conduite de leur activité. Ils ont contribué à créer une nouvelle dynamique dont se saisit une partie de la société civile et les victimes de violations des droits humains. Les principes directeurs ont aussi été intégrés dans les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales et ils ont contribué à créer un environnement normatif nouveau et c'est ce que nous allons voir dans l'épisode suivant.
Les amphis d'Amicus. Cet épisode des amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Bloomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Mathieu Gasnier. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.